Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous présenter Écho de ma commune. Et nous allons aujourd'hui quitter l'Eure-et-Loire pour rejoindre Sevran en Seine-Saint-Denis, Sevran qui est sous le feu des projecteurs depuis quelques mois et pour cause. Cette commune de Saint-Denis est, dit-on, l'une de celles qui ont fourni à Daesh ses plus forts contingents de combattants volontaires. De nombreux reportages ont projeté une lumière crue sur cette réalité sevranaise. Et le visage d'une femme de conviction s'est imposé à nous, celui de Nadia Remadna, qui est travailleuse sociale et fondatrice de la Brigade des Mères. La Brigade des Mères lutte avec les petits moyens dont elle dispose contre ce que je pourrais appeler la salafisation des esprits. Nadia Remadna est aussi l'auteur de « Comment j'ai sauvé mes enfants » publié chez Kalman Levy, et elle a accepté de répondre à nos questions durant près d'une demi-heure. Des questions qui porteront sur son combat pour les droits des femmes et des enfants sevranais à la culture et à l'éducation. Nadia Remadna, soyez remerciée de tout cœur pour le temps que vous allez nous accorder au cours de cette édition. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Pourquoi avez-vous créé à Sevran une Brigade des Mères ?
Bonjour, alors moi j'ai créé l'association Brigade des Mères. Bah, tout simplement, c'était pour dire que souvent on disait que les femmes dans les banlieues étaient démissionnaires, on savait mal éduquer nos enfants. Et c'était pour dire, debout les mères, debout les femmes, réveillons-nous, protégeons nos enfants. Alors la Brigade des Mères, au début on avait commencé parce qu'on se retrouvait beaucoup avec des enfants exclus et des enfants qui ne retrouvaient pas de lycée à la rentrée. Et on s'est dit que ces enfants-là étaient des proies faciles pour le recrutement, pour le recrutement pour Daesh, etc. Et on avait peur que ces enfants soient pris dans cet engrenage-là, parce qu'à côté, on n'a rien à leur offrir. Et c'était vraiment cette brigade, parce que moi, ça fait 21 ans que je suis sur le quartier, et j'ai vu effectivement une grande montée de radicalisation dans les quartiers. Et j'ai dit, malgré les professionnels qui sont sur le terrain, malgré les élus, rien n'est fait. Alors c'est à nous, les maires, de se réveiller pour protéger nos enfants.
Ouais. Vous avez sonné plusieurs fois, tiré la sonnette d'alarme. Vous êtes travailleuse sociale.
C'est médiatrice famille, référente famille. C'est un travail social, oui.
Ouais. Et donc vous avez plusieurs fois alerté la municipalité, les pouvoirs publics.
En fin de compte, effectivement, j'ai alerté par rapport à des situations qui ne me paraissaient pas du tout normales. Mais malheureusement, je n'ai pas été écoutée. Le problème, c'est que quand vous êtes une simple travailleuse sociale, vous savez, vous n'êtes pas entendue, écoutée. Et on m'a plus dit que je dérangeais qu'autre chose. On m'a plus reproché ça.
Alors, à quand remonte, selon vous, la montée de l'islamisme à Sevran ? Pour ce que vous en avez vu, ça date de quand ?
En fin de compte, je voulais préciser que ce n'est pas malheureusement qu'à Sevran. C'est vraiment... moi, j'avais commencé à alerter quand je travaillais aussi à Pantin. Je travaillais à la première maison des parents à Pantin. C'est pas spécifique à Sevran. Faire attention, c'est important, ça. C'est partout, mais particulièrement dans nos banlieues, je pense, parce que pendant des années, on nous a maintenus dans notre culture, dans nos traditions, par intérêt électoral. Et en fin de compte, j'allais dire, c'est l'arroseur arrosé qui sème le vent et récolte la tempête.
Mais qu'est-ce que les élus avaient à gagner, finalement?
Je pense, après, moi, j'ai connu un petit peu les politiques. Je suis pas du tout politique. Moi, comme je le dis, je suis pas politique, je suis qu'une humaniste. Et le problème, c'est que, garder le putain de pouvoir. Oui, voilà, garder ce pouvoir-là. Ils sont assoiffés de pouvoir. Et puis, aujourd'hui, voilà, on paye très, très cher ce pouvoir.
Oui. Alors, comment se fait-il que l'islamisme ait gagné autant d'adeptes dans l'espace de quelques années? C'est vraiment beaucoup. Ils sont nombreux, ils sont organisés et ils sont déterminés.
Le problème qui se passe, je dis souvent que les musulmans ont toujours vécu en France. C'est pas, moi-même je suis musulmane, on a toujours vécu en France. Mais le problème, c'est l'islam politique qui dérange. En fin de compte, on en a fait un combat. On n'arrête pas de nous parler d'islamophobie. Avant, on nous parlait du racisme et on a utilisé ce joker parce que je pense que les politiques n'avaient plus de joker. Ils ont pu l'user cette religion. Ils flirtent avec les politiques et les politiques flirtent avec eux. Et aujourd'hui, je pense que les politiques ne savent plus comment revenir en arrière. ils savent plus comment faire. Parce que malheureusement, ben, ils sont là, ils sont présents, on leur donne des locaux, on leur donne des subventions, et c'est eux qui, voilà. Le religieux a tout remplacé. C'est plus la religion que nous, on connaît. C'est, voilà, puis après, on sait comment que ça se passe. Malheureusement, on a vécu la guerre d'Algérie, la guerre civile. Moi, je dis souvent que les Français doivent apprendre à vivre avec la peur comme l'ont fait les Algériens.
Oui. Oui, alors vous êtes d'origine vous-même algérienne, hein, d'ailleurs. Vous avez été envoyée, vous êtes née en France, mais vous avez été envoyée en Algérie lorsque vous étiez adolescente.
Oui, à l'âge de 13 ans, mon père, alors je suis née en France, je suis née à Créteil en 94. Et un jour, mon père nous annonce qu'on va aller passer des vacances en Algérie. Et arrivé au port de Annaba, eh ben, il nous dit ce que vous avez dit adieu à la France, parce que de toute façon, on ne retournera pas en France. Et c'est pour ça que j'ai milité très très jeune. Quoi. Moi, j'aime la France, moi j'adore la France. Moi, la France, c'est une histoire d'amour entre moi et la France.
Hein. Oui. Comment se traduit la progression de l'islamisme dans la vie quotidienne, dans votre environnement à vous?
En fin de compte, c'est dingue ce que je vais dire, parce que c'est dingue, c'est rentré dans les mœurs. Parce que c'est pas la religion, parce que moi je me rappelle, la religion qu'on a connue, que nos parents nous a transmis, c'était vraiment, on avait quand même cette naïveté, c'était voilà, comme tous les croyants, voilà, c'était l'Aïd, on mettait du henné, tous les enfants avaient des nouveaux vêtements. Mais aujourd'hui c'est dangereux parce que, en fin de compte, c'est dangereux, de toute façon on le voit, et aujourd'hui ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a que ça, on ne parle que de ça. Il n'y a pas autre chose. Et c'est pour ça que nous, on a le projet de la Brigade des Mères, faire l'école des Mères de la République, oui. Pour amener la culture française dans les quartiers. À force de nous parler de la multiculturelle, Maghreb pour tous, couscous pour tous, et ben on a oublié de parler à nos enfants de la France. Et tout ce que la France, c'est pas, il y a une culture et tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas de cette culture française, entre guillemets, dans les banlieues. Il n'y a pas du tout.
Ce que vous dites finalement, c'est qu'on cantonne les enfants dans la culture d'origine sans ouverture possible à la culture du pays qui accueille, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ouais. Ça. Effectivement, on nous a enfermés dans notre culture, on nous a enfermés dans nos traditions. C'est comme, je dis souvent, c'est comme des prisons à ciel ouvert. C'est ça qui s'est passé dans nos banlieues.
Alors, je vous écoutais à la télévision il n'y a pas très très longtemps, donc dans l'émission Des Paroles et des Actes, vous disiez que finalement, eh bien, à Sevran, ou en tout cas dans certains quartiers de Sevran, il n'est plus possible à une femme, par exemple, de boire une menthe à l'eau dans un café. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une rue sans femmes.
En fin de compte, c'est même pas de boire un menthe à l'eau, voilà. En fin de compte, il ne viendra pas à l'idée de s'attabler dans une terrasse. De toute façon, il n'y a pas vraiment de lieu, on n'a pas vraiment le choix. Parce que c'est devenu tout, voilà, c'est devenu tellement banal, en fin de compte, c'est normal. Il n'y a pas le contraire, il n'y a pas dit pourquoi pas. De toute façon, il n'y a rien qui est fait pour que, justement, nous les mamans, nous les femmes, voilà, quand on veut boire un verre, ça va de soi, on prend l'RER et on descend à Paris. Il n'y a pas cette place qui nous permettrait que, parce que même nous, en tant que femmes, on est gênés, en fin de compte, c'est nous qui sommes gênés.
Alors, est-ce que vous avez des contacts avec ces islamistes? Est-ce qu'ils sont déjà venus vous voir pour vous dire on ne veut pas avoir la Brigade des Mères ou comment ça se passe?
Alors surtout en ce moment. En ce moment, c'est moi qui salis la ville. Il y a 2 ans de ça, il ne faut pas oublier que le maire de Sevran, il avait dit qu'il voulait faire appel aux casques bleus. Hein. Les casques bleus, c'est pas l'armée. Hein. Voilà, il suffit de taper Sevran. C'est vrai qu'aujourd'hui. Alors moi je comprends pas, dans un sens on nous dit que c'est une religion d'amour, de paix, de tolérance, et dès que vous parlez tout le monde vous attaque, alors il faut comprendre, je comprends plus rien. Et c'est vrai qu'en fin de compte c'est une minorité, hein, parce que les gens me connaissent en tant que travailleur social, mais la minorité en plus c'est des gens qui voulaient être politiques, qui sont présentés dans une liste il y a 2 ans, en 2014. C'est une liste citoyenne qui avait été présentée, c'est ces gens-là qui m'attaquent plus que les autres. C'est une clique voilà, qui eux, était présentée contre Gatignon et qu'au deuxième tour, on s'en met avec Gatignon. C'est plutôt ces gens-là, hein. C'est une minorité. Hein.
D'accord. Ouais, finalement, vous avez été victime du jeu politique, quoi, c'est ça, du jeu politicien.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est très politique. Et puis les gens sont, voilà, dès que vous parlez de ça, en fin de compte, on ne comprend pas les mots. En fin de compte, en France, malheureusement, on dit que l'expression... Non, les gens, voilà, dès que vous parlez le mot radicalisation, ça veut dire, ils vont dire vous êtes contre nous. Si vous parlez de laïcité, ça veut dire vous êtes contre. C'est ça le problème, c'est que tout est mal interprété.
Alors, vous dites qu'autrefois, il n'y avait pas de ghettoisation ethnique et religieuse dans les quartiers à Sevran. Et oui. C'était vrai d'ailleurs dans tous les quartiers. Oui. Il y avait des Portugais, des Italiens, des Algériens. Il y avait un mélange qui ne se fait plus. Moi, je me pose la question, pourquoi ce mélange ne se fait-il plus?
Et ben, malheureusement, ça n'existe plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que dans certaines banlieues, en fin de compte, vous allez voir, par exemple, à Sevran, il y a beaucoup de gens de l'ouest d'Algérie. Et non, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire, en fin de compte, je me pose la question, comment on a réussi à faire toute une famille dans une même région. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment on a fait. Vous allez du côté du 94, vous allez trouver plus les gens de l'est d'Algérie. Ouais. Alors, vous dites, est-ce que ça a été calculé? On ne sait pas, c'est vraiment, on est enfermé entre nous et il suffit que quelqu'un, comme moi, entre guillemets, sort du lot, ben, il est attaqué tout de suite. Moi, je suis attaqué tout de suite. Pourtant, je suis travailleur social. C'est pas un délit d'aimer la France. C'est pas un délit d'aimer le jazz. Voilà, en fin de compte, tant que vous êtes dans votre culture, même les politiques, attention. Ouais. Les politiques, tant que vous êtes dans votre culture, mais dès que vous sortez du contexte que eux ont créé, ben, vous dérangez.
Est-ce que c'est pas une forme de racisme à l'envers, finalement?
C'est-à-dire
qu'on considère que, voilà, on est un arabe, on est une marocaine, on est une algérienne, on voilà, ne peut pas ça. Aimer ce que les autres français aiment.
Voilà, c'est un peu ça. Dès que vous réfléchissez pas comme eux ou vous ne réagissez pas comme eux, ça vient du peuple, vous dites, bon, à la rigueur, ils sont communautaires, Mais le problème, c'est quand c'est les politiques qui vous montrent du doigt. C'est ça qui est dangereux. Parce que les gens qui sont censés représenter la République ou vous défendre, même pas défendre, sont censés bien. Ben c'est eux, en fin de compte, qui disent aux autres, regardez, elle est en train de regarder, elle est raciste, elle tape sur vous, des trucs comme ça. Pourtant, ouais. Je tape sur personne. Au contraire, j'essaye de protéger les jeunes et j'essaye de faire en sorte de ramener l'amour de la France comme nous, cette France qu'on a aimée et qu'on aime.
Vous dites d'ailleurs qu'on entretient chez les jeunes la haine de la France. Ce qui expliquerait finalement les attentats commis en France contre des Français.
Alors, quand je dis ça, je fais attention. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes un politique. Vous voyez que déjà, les jeunes, ils cherchent une étincelle, le moindre étincelle pour... voilà. Et quand une politique vous donne un tract, et dans le tract, il y a écrit discrimination, raciste, on vous parle du conflit israélo-palestinien, l'islamophobie. Vous vous rendez compte, un gamin pendant 20 ans, pendant 25 ans, vous lui parlez que du racisme, que de discrimination. Comment voulez-vous aujourd'hui? Il est l'amour. Là, c'est comme tout, hein. C'est ça qui est dangereux. Oui. Comment voulez-vous à un jeune aujourd'hui si vous lui parlez que de la haine? On fait comment? On fait comment? C'est ça. C'est dangereux. À l'école, et les associations qui leur disent, ouais, de toute façon, si tu t'appelles Mohamed, tu trouveras pas de travail. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça peut exister. Mais moi, je dis souvent que le racisme, il est universel. Il n'est pas français ou algérien ou espagnol. Le racisme est universel.
Est-ce que ce discours, votre discours, est entendu? Les maires ont été nombreuses à vous suivre dans votre combat?
En fin de compte, les maires étaient nombreuses à me suivre dans le combat, mais dès que ça a pris une ampleur médiatique et tout ça, quelques-unes ont reculé. Ouais. Mais bon, il y en a d'autres qui nous joignent, surtout des maires de Paris, de province, elles viennent de partout. Au début, on n'était que deux. Aujourd'hui, on est à 1800 adhérentes.
Il y a une forme de peur qui s'est installée quand même.
Oui,
pour certains.
La peur, ouais. Comme on dit, vous savez, le linceul, quand vous l'avez entre vous, vous savez, c'est comme un secret de famille. Ouais. Tant que c'était entre nous, dans les locaux, tout ça, mais dès que ça sort, ça éclabousse, entre guillemets, ben effectivement, on commence à dire oui, mais voilà, c'est un peu ça. Mais bon, après, la peur, c'est humain. On ne peut pas dire aux gens que vous avez peur.
Alors, quelle est la nature du travail que vous menez avec ces mamans?
Alors, nous, le travail, c'est simple. Moi, je travaille sur trois axes. Et actuellement, je travaille beaucoup avec des mamans dont les enfants sont partis en Syrie, des sœurs dont les frères sont partis. Et on essaye de responsabiliser, en fin de compte, tout le monde. Chacun a une part de responsabilité. Et particulièrement les politiques, de dire, on fait comment? On continue à compter le nombre d'enfants qui partent en Syrie. On continue à aller consoler les parents quand il y a un décès. On fait comment? Alors nous, on veut qu'une chose, on veut que la loi de la République soit respectée, c'est tout. Que les lois soient appliquées, c'est tout ce qu'on demande.
Il y a un travail également sur l'éducation, la dimension éducative, non?
Ah oui, ça c'est très très important, non seulement l'éducation, la culture française, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place la première école des maires et de la République, là, espérons en septembre, avec plusieurs modules, particulièrement la philo, parce que la philo, ben, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit, l'histoire de la France, et des ateliers sur l'estime de soi, et bien sûr les ateliers sur le devoir d'un citoyen. C'est quoi être citoyen? Parce que citoyen, ça veut dire que c'est pas une nationalité, c'est pas une religion. On est tous citoyens, quelle que soit notre nationalité, notre statut social, notre religion ou pas. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ça.
Je me pose la question, d'où vient votre amour de la France et de la...
Ah, l'amour de la France, ben, vous savez, moi je suis née en France, moi j'ai, voilà, mes premiers mots que j'ai prononcés c'était en français, et puis moi la France elle m'a donné tout ce que je suis aujourd'hui, hein. Voilà, c'est grâce à la France que je suis ce que je suis aujourd'hui. Si je me serais arrêtée à ma tête d'arabe, j'aurais rien fait, hein.
Je voudrais qu'on parle de votre livre, Comment oui. J'ai sauvé mes enfants. Ce livre, quelle en est l'histoire?
En fin de compte, c'est vrai que le titre au début, Comment j'ai sauvé mes enfants, je ne voulais pas vraiment ça parce qu'ils ne sont encore pas sauvés, malheureusement, ils sont encore étudiants et tout ça. C'était en fin de compte, c'est vrai, en fin de compte, c'est le combat. C'est le combat d'une mère voilà, qui élève ses enfants, mais moi j'ai horreur de la victimisation. Et en fin de compte, pour éviter cet enfermement, justement, et c'est pour ça, c'était voilà, cette ouverture d'esprit, c'était voilà. Aller chercher ailleurs, aller chercher la culture, la connaissance, le savoir. Je voulais pas qu'ils soient enfermés que dans la culture, leur culture, qui est quand même, ils ont deux. Je leur disais, l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de vos parents, mais vous, votre histoire, c'est l'histoire de la France. Ouais. Il faut connaître d'abord son histoire pour s'intéresser aux autres. Ouais. Et j'ai essayé, effectivement, c'était pas évident. Vous êtes dans une banlieue, vous êtes seule. Moi, mes enfants, je les ai élevés toutes seules. C'est pas évident parce que d'être rattrapé par la méchanceté des gens, les préjugés et tout ça. Et c'était pas évident même pour eux, parce que des fois ils sont grands, ils m'en parlent, mais c'était pas évident même pour eux.
Vos enfants ont été tentés à un moment par l'islam radical, vous avez été obligé de lutter?
Pas vraiment tentés, mais c'est vrai que, ben, parce que ça vient de l'extérieur, par ouais. exemple, plusieurs choses. Par exemple, ça vient de l'extérieur. Par exemple, fêter Noël, moi j'adore Noël, par exemple, c'est une fête que j'adore. C'est pas de ma faute si c'est, j'adore les fêtes de Noël, j'adore, parce que déjà, avant tout, c'est une fête pour les enfants. Moi, je vois pas le côté religieux du tout. Et c'est vrai que mes enfants, bah, écoutez, il y a celle de l'extérieur. L'extérieur est violent. L'extérieur, il fait pas de cadeaux. C'était pas évident. Mais bon, maintenant, ils sont grands, ils comprennent certaines choses, même s'ils sont attachés à certaines de la culture et tout ça. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, parce que c'est pas que moi, parce que, bah, l'extérieur, malheureusement, on vous propose que ça. Et c'est ça qui est dangereux.
Ouais. Les jeunes de Sevran et d'ailleurs se radicalisent, on le dit souvent sur Internet.
Non, moi je n'y crois pas à l'histoire d'Internet. Moi je pense qu'Internet, ils vont, en fin de compte, c'est comme si quelqu'un il était à la recherche de quelque chose, vous savez, un symptôme par exemple, quelqu'un qui a le cancer, il veut éviter la chimio. Et pour voir, il va essayer s'il n'y a pas autre chose. Mais moi je pense qu'il y a déjà un contact humain d'abord avant tout.
Oui.
Après, je crois moi c'est mon avis, je ne sais pas, après peut-être que je me trompe. Je pense qu'à Internet, ils vont, voilà, c'est pour, voilà, effectivement, voir si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Mais il y a beaucoup de, au début, ça peut commencer plus par un contact humain. Ça peut être n'importe où, c'est tellement vicieux, c'est tellement mesquin, c'est tellement que ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre ami d'enfance, ça peut être l'animateur, ça peut être votre formateur. Maintenant, c'est au-delà de, c'est sorti, c'est partout, quoi. Ça peut être votre voisin, ça peut être le copain, le meilleur copain de votre copain. C'est moi, par rapport à ce que j'ai fait de mon travail, j'ai beaucoup de témoignages. Et moi, j'en ai un là, qui vient me voir là, avec la maman. Et ben son le fils est radicalisé avec le formateur. C'est le formateur qui était censé le former qui l'a radicalisé. C'était un gamin qui aimait la musique, qui aimait la vie et tout ça. Et ben il s'est radicalisé pendant la formation.
Ouais. Donc ouais,
il est mort. Malheureusement, il est décédé.
Il est décédé. Ouais.
C'est ça, c'est vicieux. C'est pas être n'importe qui, c'est trompeur. C'est pas forcément celui qui a une grande barbe, une longue barbe et qui. Non, c'est plus mesquin que ça. C'est pour ça que ça va tellement. C'est le mec, il va venir, il va vous faire la bise. C'est vraiment. Voilà. Et le problème, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, qui m'agace plutôt, c'est ce que j'ai vu moi et ce qu'ont vu les autres personnes et les autres parents. C'est que les politiques prennent des gants.
Mais souvent, on critique aussi les politiques, on peut les taxer d'islamophobie, c'est arrivé à certains hommes politiques. C'est difficile dans l'action politique, et peut-être plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10-20 ans.
Moi, je vais vous dire, l'islamophobie ne tue pas. Hein. C'est pas l'islamophobie qui est en train de tuer pour le moment. Mmh. Là, j'ai entendu M. Valls, là, dernièrement, il avait fait, en disant qu'effectivement, que le radical avait plus beaucoup de place en France, mais Mais moi, personnellement, oui, c'est pas un truc qui vient de sortir, hein. C'est comme si que quelqu'un sortait de son trône au bout de 30 ans de pouvoir et il disait, ah bon, il y a des intégristes dans mon pays. Ah bon, mais non. C'est soit on applique la loi, il y a des lois, on les respecte et on applique les lois et on met le truc en place. Soit les politiques aujourd'hui prennent effectivement le rôle de politique au sérieux et ne pensent pas qu'au pouvoir, mais ils pensent à nous, les citoyens français.
Est-ce que est-ce que depuis l'émission des paroles et des actes, vous avez été confronté notamment au maire de Molenbeek, est-ce que des politiques vous ont appelé pour vous dire, ben moi j'ai envie de vous filer un coup de main?
Non.
Aucun
du
politique.
Aucun. J'ai beaucoup de conférences, des gens de l'extérieur. Tout, je me déplace un peu partout. Plutôt des institutions comme les écoles, d'autres institutions, mais aucun politique. Il y avait un politique de, je sais pas de quel parti, mais bon, je suis pas dans l'extrême. Mais sinon, dans 93, ma ville et tout ça, personne. Silence total. Je passe plus pour une grande gueule, plus de merde qu'autre chose.
Vous avez l'impression que donc le combat, finalement, les grandes manifestations de Paris, après les attentats de Charlie, après les attentats du 13 novembre, ça n'a pas servi à grand-chose? Vous avez quand même le sentiment que, voilà, on a plus envie de vivre ensemble, non? C'est pas le cas?
Je sais pas, je suis partagée entre deux, parce que bon, moi, après, quand j'avais fait ma marche le 13 mars, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs. Mais si, il y a une politique qui m'a contactée, je dis des bêtises, la maire du 20e.
Oui.
Si, il y a la maire du 20e qui m'a contactée. Qui veut... Et là, je suis à, comment elle s'appelle, la ministre des droits des femmes qui m'a contactée.
Oui.
Je dois la rencontrer dans la semaine.
Donc ça peut être une ouverture, donc quelque chose
de... Après, j'espère, parce que le but, c'est que... C'est pas le petit chapeau en rouge hein, que je suis en train de dire. C'est des trucs qui sont là, qui existent. Nous, on a des gamins de 14-15 ans. La guerre d'Algérie et la guerre civile en Algérie, ça a commencé comme ça et tout le monde disait non, ça va passer, manque de peau. Non, ça fait peur, quoi. Tout le monde a peur. Et la peur, c'est humain.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'une guerre civile est possible aujourd'hui en France?
Moi, je suis sur ce point-là, je suis assez pessimiste. Malheureusement, moi déjà de nature, je suis un peu pessimiste. Malheureusement, je dis, on y est déjà. On est déjà dans une guerre civile, je pense. Parce que les attentats qu'il y a eu, on aura. Et puis, le problème, c'est que ça fait peur. Après, on ne sait pas. Bon, on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais si on ne met pas les choses en place et que les politiques continuent à prendre des gants et nomment pas les choses, ils ne disent pas les choses et... On continue à, qui sont pas contrôlés. En fin de compte, il faut être exigeant. Voilà. Il faut être dans l'exigence.
Ouais.
On s'en fout. Il faut être exigeant. Parce que le problème, c'est qu'on est pris à, après, on a peur. Il y a le Front National qui est en train de monter. Mais ça fait peur.
Oui. Donc, vous pensez que c'est le but, d'ailleurs, des terroristes de faire monter les extrêmes pour créer l'affrontement, quoi. C'est ça. Ouais.
Bah oui, ça fait peur. Parce que là, le Front National, il monte. On l'a vu la dernière fois sur les élections, là. Mais ça fait peur parce que le Front National monte d'un côté, c'est ça qui fait peur. Et nous, on est au milieu de tout ça, quoi.
Ouais. Si vous aviez à donner un ou deux conseils à des parents dont les enfants seraient engagés dans une voie radicale, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire en priorité?
Alors moi, je dirais déjà à des parents, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à alerter. Vaut mieux, voilà. Vaut mieux des fois passer pour une parano, pour un truc, que rien faire. Il faut alerter. Mais le problème qui se passe, c'est que les parents souvent me disent, quand ils alertent, ils ont peur. Voilà. Parce que ça se passe très, 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 très mal. Parce qu'il y a une perquisition chez vous, toute la famille en garde à vue. En fin de compte, c'est violent. Et les parents ont peur, du coup, de dénoncer ou de tirer le signal d'alarme. Pour le moment, il n'y a aucune institution qui peut justement... Il y a un numéro vert Stop Djihadiste. Mais le problème qui se passe aujourd'hui... Les parents, ils sont plus jugés comme des parents d'enfants terroristes que aidés, écoutés.
Ouais.
C'est ça, les parents, alors du coup, ils ont peur. Et c'est pour ça quand ils viennent nous voir, ils nous demandent, vous savez, moi j'ai des doutes. Moi, dernièrement, il y a une famille qui m'a appelé, la gamine avait 14 ans. Elle m'a dit, je sais pas quoi faire, j'ai peur de les dire à l'école et que l'école fasse un signalement et qu'on place les gamins. C'est ça aussi.
Ouais.
La peur de dénoncer que tout après est chamboulé.
Voilà. Vous lui avez parlé à cette jeune fille de 14 ans, vous avez eu la
possibilité... Oui, on a parlé à cette jeune fille de 14 ans, effectivement, elle avait connu quelqu'un, elle est tombée amoureuse, et puis voilà, et puis après on a parlé avec elle, une fille qui est elle-même de confession catholique, La mère est malade, elle avait un cancer, la pauvre maman, elle avait deux petites sœurs, voilà, comment vous faites quand vous êtes une maman, vous êtes affrontée à ça, vous faites comment? Vous allez le signaler à l'école, comme elle a dit, elle a peur que l'école fasse un signalement, elle est au commissariat, bah, elle avait peur de la... En fait, compte, les parents ont peur de la violence des institutions.
Donc, on est dans une situation un peu bloquée, finalement, parce que les
institutions... Oui, on est bloqué parce que c'est vrai que la réponse en face, c'est aussi... elle est violente. Moi, je l'ai vu, c'est vrai que c'est violent. Particulièrement, les parents ne savent pas comment faire, même s'ils veulent collaborer, entre guillemets, mais ça reste leurs enfants, il y a le côté affectif, et c'est pas évident. Alors, nous, c'est vrai que dans nos ateliers qu'on fait, estime de soi et libérer la parole et tout ça... Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, particulièrement les mères, mais il y a des pères aussi, qui sont courageuses et qui parlent parce que elles se disent, si on aurait pu parler au début, même parce que nos enfants ne seront pas partis. Et puis, surtout quand c'est des musulmans, déjà, parce que déjà, quand on est musulman, déjà, il n'y a pas de radicalisation vraiment, parce que voilà, ça paraît normal quand un enfant fait sa prière, fait le ramadan, ça va. Mais quand c'est au-delà, parce que histoire de pas écouter la musique, ça c'est sorti il y a qu'un an ou deux. Ouais.
Voilà quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Est-ce que vous avez été déjà menacée physiquement ou?
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais je suis qu'un être humain. Bien sûr que la peur, elle est là, elle est présente. Puis même à un moment donné, vous dites. Le problème, ce qui me fait peur, moi, c'est que vous n'êtes pas protégé parce que les élus qui sont censés vous protéger ne vous protégeront pas parce que de toute façon, ils flirtent avec eux. Et c'est ça qui me fait plus peur. Si j'aurais affaire qu'à eux, entre guillemets, je dis bon, de toute façon, je suis en France, c'est un pays de loi, il y a la protection, on est protégé. Mais j'ai plus peur parce que ces gens-là qui sont censés nous protéger ne vous protègent plus. Ouais. Et bien au contraire. Et c'est là que la peur, elle est là.
Nadia, merci, un grand merci à vous. On va peut-être donner une adresse e-mail. Les gens qui souhaiteraient vous contacter peuvent le faire comment?
Alors, nous, c'est la Brigade des Mères, @outlook.fr.
Très bien. Un grand merci à vous. Un merci. C'est moi. Et on souhaite évidemment à votre combat de se poursuivre et de réussir.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses dix femelles dans le maigre square de Grenelle.